Des aventures de Tom Sawyer, chapitre 12, thérapeutique. Si Tom avait cessé d'être obsédé par son secret, c'est parce qu'il avait à nouveau un grave sujet de souci. Becky Thatcher ne venait plus à l'école. Pendant quelques jours, Tom s'était débattu contre son amour-propre et avait essayé de la chasser de ses préoccupations, mais sans y parvenir. Il se surprit à rôder la nuit autour de la maison de son père. Il était très malheureux. Elle était malade. Si elle allait mourir, cette idée l'affolait. Ah ! Il ne pensait plus à la guerre. Il ne songeait plus à se faire pirate. La vie n'avait plus de charme. Rien n'était plus que tristesse. Il ne touchait plus à son cerceau. Son cerf-volant ne l'intéressait plus. Sa tante s'inquiéta de ce changement. Elle lui fit essayer toutes sortes de médicaments. Elle était de ces gens qui s'engouent pour toutes les spécialités, pour tous les traitements ultra-modernes qui prétendent rendre ou améliorer la santé. C'était une manie qu'elle avait de longue date. Quand elle découvrait une nouveauté, elle n'avait de cesse qu'elle ne l'eût essayée. Non pas sur elle, car elle n'était jamais malade, mais sur la première personne qui lui tombait sous la main. Elle était abonnée à tous les journaux de médecine des familles et autres attrapes nigauds phrénologiques. Elle se gargarisait de l'ignorance pompeuse dont ils étaient boursouflés. Toutes les absurdités qu'ils contenaient sur l'aération, sur la façon de se lever, la façon de se coucher, sur ce qu'il fallait manger, sur ce qu'il fallait boire, sur la durée quotidienne de l'exercice qu'il fallait prendre, la disposition d'esprit qu'il convenait d'adopter, le genre de vêtements qu'il fallait porter, tout cela était pour elle parole d'évangile. Et elle ne remarquait jamais que les conseils donnés dans le journal du mois contredisaient régulièrement ceux que ce même journal avait donnés le mois précédent. Sa droiture et sa bonne foi faisaient d'elle une proie tout indiquée. Elle collectionnait les revues charlatanesques, les médicaments charlatanesques, et munie de ses armes de mort, elle allait à l'aventure sur son cheval pâle, métaphoriquement parlant, avec l'enfer à sa suite. Mais elle ne se rendit jamais compte que ses voisins et victimes ne voyaient en elle ni l'ange de la guérison, ni la dispensatrice du baume de Galaad. À cette époque, la mode était au traitement hydrothérapique, et le mauvais état de santé de Tom lui fournissait une occasion unique de l'expérimenter. Elle le fit lever dès l'aube chaque matin. Dans le hangar à bois, elle le noyait sous un déluge d'eau froide. Pour le revigorer, elle le frictionnait jusqu'au sang avec une serviette râpeuse comme du papier de verre pour lui faire reprendre connaissance. Elle lui faisait ensuite des enveloppements mouillés et finalement l'enfouissait sous un paquet de couvertures où le malheureux transpirait à rendre l'âme qui finissait par lui sortir par les pores, comme disait Tom. Malgré tout cela, Tom devenait de plus en plus mélancolique, de plus en plus pâle, de plus en plus déprimé. Tante Polly compléta alors le traitement par des bains chauds, des bains de siège, des douches et autres plongeons, ce qui n'empêchait pas Tom de demeurer triste comme un bonnet de nuit. Au traitement hydrothérapique vint alors s'adjoindre un régime amaigrissant au gruau d'avoine, accompagné de vésicatoires. Elle calculait la capacité de Tom comme s'il s'était agi d'une urne, dont elle faisait quotidiennement le plein à l'aide de panacées charlatanesques. À force de persécution, Tom avait fini par s'accoutumer au martyr, ce qui remplissait de consternation le cœur de la vieille dame. À tout prix, il lui fallait vaincre cette apathie. Elle venait précisément d'entendre pour la première fois parler d'un élixir reconstituant. Elle en commanda immédiatement de nombreuses bouteilles. Elle le goûta et son cœur déborda de reconnaissance envers l'inventeur. Ce n'était ni plus ni moins qu'une sorte de feu liquide. Foin du traitement hydrothérapique et de tous ses compléments, l'élixir reconstituant avait désormais toute sa confiance. Elle en donna à Tom une cuillerée café et épia anxieusement les résultats. Son inquiétude fut instantanément dissipée. La paix reprit possession de son âme. L'apathie était vaincue. Tom n'aurait pas pu montrer plus d'intérêt, ni faire preuve de plus d'agitation si elle l'avait mis sur un bûcher. Il estimait, en effet, que le moment était venu de sortir de sa torpeur. Ce genre de vie n'était pas dépourvu d'un côté romanesque, qui avait pu faire son affaire pendant quelque temps, dans l'état d'abattement où il se trouvait. Mais il finissait par perdre en intérêt ce qu'il gagnait en abracadabrante diversité. Il réfléchit aux différentes possibilités qu'il avait d'y mettre bon ordre et finalement décida de manifester un enthousiasme sans bornes pour l'élixir reconstituant. Il en demandait si souvent qu'il en devenait assommant. Sa tante finit par lui dire de la laisser tranquille et de se servir lui-même. S'il s'était agi de cidre, aucun pressentiment ne serait venu altérer la joie de la bonne dame. Mais, comme il s'agissait de Tom, elle surveilla la bouteille en cachette. Elle put constater que le niveau du médicament baissait, sans toutefois se douter qu'en réalité, Tom l'employait à soigner la santé d'une fente dans le parquet du salon. Un jour, Tom était précisément en train d'administrer au parquet sa dose quotidienne, lorsque le chat jaune de sa tante s'approcha de lui en ronronnant et en guignant la bouteille d'un regard d'envie, comme s'il demandait à en goûter. « Si tu n'en veux pas, Pierrot, n'en demande pas !» Pierrot insista. « Tu es bien sûr que tu en veux ?» Pierrot en était sûr. « Puisque tu en demandes, je vais t'en donner parce que je ne te refuse rien. Mais si tu n'aimes pas ça, ne t'en prends qu'à toi-même. » Pierrot se déclara d'accord. Tom lui ouvrit la bouche et lui versa dans le gosier une bonne dose de l'élixir. Pierrot fit un bond de quelque 2 mètres de haut, poussa un miaulement terrible et se mit à tourner en rond dans la pièce, se cognant au meuble, renversant les pots de fleurs et mettant tout sans dessus-dessous. Il se dressa sur ses pattes de derrière et continua à faire le fou tout en poussant des miaulements frénétiques. Là où il passait, tout était cassé. La tante Polie arriva juste à temps pour le voir exécuter plusieurs sauts périlleux, pousser un dernier miaulement et sauter par la fenêtre en entraînant avec lui les quelques pots de fleurs encore intacts. Complètement ahurie, la vieille dame regardait par-dessus ses lunettes. Tom, couché par terre, était malade de rire. « Mais c'est épouvantable ! Tom, ce malheureux chat, qu'est-ce qu'il a ?»« Je ne sais pas, ma tante, » dit Tom, se tenant les côtes. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état ?»« Je n'en sais rien, ma tante. C'est toujours comme ça que font les chats quand ils s'amusent. »« Pas possible !» La remarque était formulée d'un ton qui mit Tom sur ses gardes. « Oui, c'est-à-dire, je crois. »«
Tu crois ?»«
Oui. » La vieille dame se baissa. Tom, mi-inquiet, mi-curieux, la regardait. Il ne comprit que trop tard la signification de ce geste. Telle une pièce à conviction, le manche de la cuillère émergeait de dessous le lit. Tante Polie ramassa la cuillère, la brandit sous le nez du coupable. Pris sur le fait, Tom baissa les yeux. Tante Polie l'attrapa par l'oreille et lui donna sur la tête quelques bons coups de son dé à coudre. « Qu'est-ce qui t'a pris de jouer un tour pareil à cette pauvre bête ?»«
J'ai eu pitié du chat. Il n'a pas de tante, lui. »«
Pas de tante, petit insolent. Qu'est-ce que cela vient faire là-dedans ?»«
Ça fait beaucoup, parce que, s'il avait une tante, c'est elle qui aurait donné sa drogue. C'est elle qui lui aurait mis le feu à l'estomac. » Il n'y a pas de raison pour ne pas faire aux bêtes ce qu'on fait aux gens.
La pauvre tante Polie éprouva tout à coup un remords de conscience. Le cas lui apparaissait sous un nouveau jour. Ce qui était cruel vis-à-vis d'un chat pouvait être cruel vis-à-vis d'un enfant. Un peu penaude, elle se radoucit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle mit la main sur la tête de Tom et lui dit « Je l'ai fait dans une bonne intention, Tom, et au fond, cela t'a fait du bien. » Tom la regarda bien en face et, avec une gravité qui démentait une lueur de malice dans ses yeux, il répondit « Je le sais bien que vous l'avez fait dans une bonne intention, ma tante. Moi aussi, je l'ai fait dans une bonne intention pour Pierrot. Vous voyez le bien que ça lui fait ? Je ne l'ai jamais vu faire une telle vie que depuis qu'il... Oh, tais-toi, Tom, tu m'exaspères. Tâche d'être sage, et tu n'auras pas besoin de médicaments. » Tom arriva à l'école bien avant l'heure de la classe. Fait extraordinaire. Cela se produisait maintenant tous les jours. Et, au lieu de jouer avec ses camarades, il restait à la porte, à l'entrée de la cour. Il se disait malade, et en vérité, il en avait l'air. Il essayait de donner le change en regardant à droite et à gauche, mais en réalité, il n'avait Dieu que pour la rue d'en face. Ce jour-là, il vit venir Jeff Thatcher. Le visage de Tom s'éclaira. Un instant, il regarda de tous ses yeux, puis, déçu, reprit son expression boudeuse. Quand Jeff arriva, Tom le questionna, lui tendit la perche pour parvenir à mettre la conversation sur Becky, mais l'autre s'obstinait à ne pas comprendre. Tom reprit sa faction, sursauta dès qu'apparaissait une robe, désespéré dès qu'il se rendait compte que ce n'était pas celle qu'il attendait. Bientôt, il n'y eut plus de robe, et Tom retomba dans une sombre mélancolie. Il entra dans la salle de classe encore vide et s'assit, broyant du noir. Tout à coup, alors qu'il n'y comptait plus, une nouvelle robe apparut. Tom ressentit un coup au cœur. Il sortit et l'instant d'après, il était déchaîné. Il chantait, il criait à tue-tête, il bousculait ses camarades, franchissait la clôture d'un bond au risque de se casser bras et jambes, marchait sur les mains, faisait toutes les singeries qui lui passaient par la tête, tout en ne perdant pas Becky des yeux pour voir si elle faisait attention à lui. Mais elle n'eut même pas l'air de s'apercevoir de sa présence. Était-ce vraisemblable ? Il renouvela ses acrobaties tout près d'elle, se mit à pousser des cris de guerre, prit la casquette d'un camarade et la lança sur le toit de l'école, se précipita sur un groupe d'enfants qu'il força à se disperser et finalement s'étala de tout son long au pied de Becky qu'il faillit renverser. Becky, dédaigneuse, se détourna et Tom l'entendit qui disait « Peuh, il y a des gens qui se croient très forts et qui ne sont que des poseurs. » Les joues en feu, Tom se releva tout penaud et jugea préférable de s'éclipser sans mot dire.